Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, IVG, LGBT, la France est-elle un modèle à suivre? Et Macron diplomate, le coup d'éclat permanent? Et nos débatteurs ce dimanche, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle, c'est votre dernier ouvrage publié chez Talendier. Brice Couturier, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Collaborateur au magazine Le Point, l'entreprise face aux revendications identitaires, c'est votre dernier ouvrage au PUF. Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Il y avait bien tous les trois pour l'instant. Prononcez mon nom, je veux dire, un magistrat de vous. Secrétaire général de la CNCDH, les droits de l'homme, c'est votre Que sais-je qui est paru au PUF. Et puis Bertrand Badi, bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, il a pas tenté, hein, c'est pas facile à prononcer. Pour une approche subjective des relations internationales, c'est votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine et de la Russie. Ne pas écarter l'envoi de troupes, ne pas céder à la lâcheté. Des propos qui bousculent en France et en Europe, c'est le but. Mais est-ce que c'est efficace? Nous en débattrons. Mais tout de suite, notre premier sujet.
Pardon. Aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique. Notre République n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle sait reconnaître qu'elle a perdu le fil de ses principes fondateurs. La liberté, l'égalité, la fraternité.
Voilà, et des mots rares que se prononçait mercredi soir par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la République qui demande pardon aux personnes poursuivies en raison de leur homosexualité entre 1942 et 1982. La loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les homosexuels a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Un geste fort pour une reconnaissance qui n'est pas que mémorielle. Comme l'a rappelé le rapporteur du texte, c'est parce que l'homophobie parfois décomplexée perdure dans notre société que nous devons voter cette proposition de loi. Réparer donc, mais aussi prévenir. Et c'est un peu la même logique qui a présidé à l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'intervention volontaire de grossesse. Une première mondiale, la remise en cause du droit à l'IVG aux États-Unis a servi d'électrochoc dans un pays, la France, où ce droit ne paraissait pourtant pas menacé. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Plus rien n'est acquis et tout est à défendre, a déclaré Emmanuel Macron vendredi lors du scellement officiel de la loi constitutionnelle. Prochaine étape, le président français souhaite que la liberté de recourir à l'IVG soit inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors le chef de l'État n'est pas le premier à vouloir marquer son mandat sur le terrain sociétal. VGE a dépénalisé l'IVG, Mitterrand a aboli la peine de mort, Hollande a autorisé le mariage gay. Macron, lui, entend porter le fer au-delà de nos frontières. « Nous ne trouverons le repos », a-t-il déclaré, « que lorsque cette promesse, celle du droit à l'avortement, sera tenue partout dans le monde. » Mais la France est-elle légitime à vouloir servir de modèle sur ces questions? Magali Lafourcade, je commence par vous. En devenant le premier pays au monde à constitutionnaliser l'IVG, est-ce que la France a envoyé un message politique important au monde entier?
Ah oui, ça, cela me paraît assez indéniable. D'abord, la cérémonie de scellement était extrêmement émouvante et on voyait que c'était vraiment au cœur du discours du président de la République, c'était d'envoyer ce message-là. Et ce message, il n'est pas vain puisque aujourd'hui, dans le monde, 40% des femmes en âge de procréer vivent dans un état qui l'interdit, l'IVG, ou qui le limite tellement qu'il n'y a quasiment que des IVG clandestins. Et l'avortement clandestin, c'est la troisième cause de mortalité chez les femmes qui vivent dans ces pays-là. Donc on voit que ce message, il est extrêmement puissant à envoyer et il va susciter d'innombrables débats. Toutefois, il faut pas se leurrer. Cette cérémonie était très forte à cause de ce message envoyé au monde. Mais concrètement, l'IVG en France, ça va pas très bien. Quand on regarde les chiffres, il y a 130 centres d'IVG qui ont été fermés en 15 ans selon le planning familial. Il y a des inégalités d'accès sur le territoire. Il y a très peu de médecins qui le pratiquent. Et puis quand on parle globalement de cette diplomatie qu'envoie la France dans le monde, elle est extrêmement puissante. On l'a vu sur l'homophobie, la haine des personnes qui se sont engagées dans un parcours de transidentité. Il y a un vrai message aussi que la France investit sur ce terrain-là, avec un diplomate, Jean-Marc Barton, qui est extrêmement efficace dans cette lutte pour dépénaliser l'homosexualité.
Alors Jean-Marc Barton, voilà, c'est l'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+.
Voilà. Et pour avoir travaillé avec lui, je peux confirmer qu'il est extrêmement efficace et actif.
On apprend au passage d'ailleurs que la France a un ambassadeur sur ces questions.
Voilà, c'est nouveau, hein, c'est un nouveau mandat. Toutefois, là aussi, on peut dire qu'au niveau national, bah, là non plus, ça ne va pas très bien. En 2020, alors qu'on a 23 critères de discrimination inscrits dans la loi, il y a eu zéro condamnation dans notre pays. Nous n'avons pas véritablement de politique pénale de lutte contre les discriminations, et les discriminations liées à l'orientation sexuelle, elles sont importantes. Et puis alors après, juste pour le dire, parce que la France est aussi engagée dans une diplomatie féministe qui est extrêmement ambitieuse, elle révise en ce moment sa stratégie féministe de la France, donc à l'étranger, en projection, et c'est extrêmement important, ça a un effet massif de contagion sur d'autres pays pour que le genre soit un levier de transformation. Mais quand on regarde les violences sexuelles et sexistes en France, elles sont massives, il y a une vraie impunité. Et puis les écarts de rémunération, on a fait le point avec le 8 mars, l'Eurostat considère qu'il y a un quart de moins que dans les salaires des femmes par rapport à ceux des hommes, et les pensions, c'est 40% de moins. Donc on peut dire que le bilan au niveau national est quand même pas exceptionnel, il est même pas terrible. En tout cas, il va pas forcément toujours dans le bon sens, alors que le bilan dans la diplomatie, dans ce qui est envoyé au monde, est extrêmement positif, et on peut dire que là, on est pionnier, on est à l'avant-garde.
Est-ce que vous partagez ce bilan contradictoire que vient de faire Magali Lafourcade, Brice Couturier, c'est-à-dire donc une diplomatie sur les discriminations très active, et en France une plus grande difficulté à appliquer peut-être ces principes?
Oui, je vais vous étonner, je suis assez d'accord avec la France insoumise sur ce sujet-là.
France insoumise.
Non, mais je ne parlais pas de vous.
Ouais. Mais en tout cas, vous nous étonnez, ça c'est sûr.
Oui, il y a le droit à l'avortement, l'IVG, c'est à la fois un droit liberté et c'est un droit créance. En tous les cas, ça devrait l'être. C'est bien gentil de proclamer, de graver dans le marbre, pourquoi pas aller le graver sur la face cachée de la Lune, le droit à l'avortement, si en réalité il est difficile à pratiquer. On se moque des États-Unis où la Cour suprême a renversé sa jurisprudence de l'époque 1973 en autorisant les États à limiter ou à interdire l'IVG. Mais il faut reconnaître qu'en France, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que dans certains départements français, il est quasiment impossible de se faire avorter quand on le désire.
Quand vous dites droit créance, c'est ça, c'est-à-dire
voilà, le droit
appliquer
créance, un droit créance, c'est un droit qui donne à une personne les moyens, enfin qui oblige la puissance publique à donner à une personne les moyens d'une liberté qu'on lui octroie. Une liberté n'est rien si elle n'est pas suivie des moyens de l'exercer. Or, en l'occurrence, il faut reconnaître que nous ne sommes pas si merveilleux que ça en France. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Par contre, je vous dirais franchement que quand j'ai vu cette inscription dans la Constitution, je me suis dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Il faut savoir que dans notre pays, 82% des Français sont favorables au droit des femmes à se faire avorter, et que le Parlement l'a voté, enfin le Congrès l'a voté à plus de 90%, qu'il n'y a aucun parti politique en France pour le moment qui remette en cause le droit à l'avortement. Donc il y avait un aspect symbolique, il y a un aspect politicien évidemment, c'est gros comme une maison, on voit bien que les élections européennes se profilent et que hélas probablement le parti présidentiel n'est pas le mieux placé pour les aborder, donc là on va chercher un peu l'électorat de gauche, puisqu'il a été un peu déçu, mettons, par la composition du gouvernement actuel. Donc, oui, l'aspect politicien, à mes yeux, gâche un peu la fête, vous voyez.
Bertrand Badie.
Oui, ben, je crois qu'on est d'accord autour de cette table. L'effet d'annonce, évidemment, on approuve tous, parce que c'est fondamental pour le droit des femmes, et il ne faut quand même pas négliger l'importance de l'énonciation. C'est-à-dire, l'action, elle commence à partir du moment où il y a une vraie prise de conscience d'un problème. Et c'est sûr que l'inscription dans la Constitution participe de cet effort de prise de conscience collective. On le voit bien dans le discours, dans les propos tenus, que cette prise de conscience a gagné des points, avancer dans l'opinion publique française, dans les médias, dans le débat général. Ça, c'est l'aspect positif que, je pense, comme le disait Brice il y a un instant, peu de gens peuvent véritablement contester, sauf sous forme de ces contestations souterraines que l'on trouve dans des milieux intégristes et conservateurs.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, sauf à contester le principe même de l'IVG.
Voilà, oui, mais qui se fait grâce, justement, à cette pression positive de plus en plus discrète. Il faut bien l'admettre. Ceci étant posé, il y a quand même toute une série de choses qui posent problème derrière tout cela. La première et la plus évidente, c'est que vous annonciez tout à l'heure, parmi les grands moments de progrès de l'humanisme et des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand et Robert Badinter. Oui, mais c'est pas la même chose. Lorsque l'État décide d'abolir la peine de mort, il n'y a plus de peine de mort. Lorsque l'État décide d'instituer, de reconnaître même constitutionnellement l'IVG, ça ne veut pas dire que chacune des femmes qui demandent l'IVG seront satisfaites dans leur demande. Ça n'abolit pas non plus, ce qui est une dimension terrible, l'humiliation qui accompagne la démarche, c'est-à-dire effectivement aller quêter auprès d'autorités médicales qui vous regardent de très haut ce droit qui est un droit constitutionnel. Ce qui veut dire que il faut savoir faire une différence entre ce qui relève de la compétence exclusive de l'État et ce qui relève des comportements sociaux. Je pense que du point de vue des comportements sociaux, les progrès, les avancées sont beaucoup moins nettes. Et cela m'amène à un autre point, qui est d'abord de dire que très bien d'inscrire ce droit dans la Constitution, il ne faut pas oublier qu'une Constitution, elle peut être révisée. Qui abolirait aujourd'hui le droit à l'IVG, sinon qu'un gouvernement extrémiste qui se donnerait les moyens de gouverner par la force et qui trouverait les moyens de procéder d'une manière ou d'une autre à une révision constitutionnelle. Donc le saut n'est pas aussi qualitatif qu'on le dit.
Et par ailleurs, d'ailleurs, la constitutionnalisation n'empêche pas de modifier les conditions d'accès à l'IVG.
Absolument, absolument. J'ajoute à cela, moi, deux, trois aspects qui m'ont gêné. Je vais être rapide. Lorsqu'on fait de l'annonce, monsieur de la Palice en dirait autant, on fait de la communication politique. Et la communication politique, elle est pleine d'effets pervers. C'est ce que Brice signalait il y a un instant. C'est-à-dire, notamment, le propre de la communication politique, c'est de servir les fins de celui qui communique. Et là, de ce point de vue, je trouve qu'il y avait un degré de trop dans cette espèce d'appropriation politique d'un geste d'annonce qui aurait dû se situer à un niveau plus élevé. J'ai pas été convaincu, c'est ma petite différence avec Magali, par cette cérémonie qui avait même, ça m'a mis mal à l'aise, je dis pas choqué, mais mis mal à l'aise, ce côté kafkons de faire un pastiche de la Marseillaise à un moment, dans une cérémonie qui se voulait solennelle. Tout ça m'a paru un peu étrange.
Le pastiche, puis, c'est référence à Catherine Ringer.
Oui, qui a chanté, assez faux voilà, d'ailleurs, une chanson voilà, qui était...
Une version un peu remaniée
de la Marseillaise. De la République, voilà, tout féminisé d'un coup, et ça faisait bizarre dans une cérémonie si solennelle. Et tout dernier point quand même que je voudrais dire, attention au terme modèle. Nous sommes des grands marchands de modèles. Nous voulons offrir des modèles à tout le monde. Et des modèles S, M, L, XL et tout ce qu'on en veut, il faut faire très attention à ça. Parce que ce qui compte, c'est les histoires de chacun. Chaque peuple avance dans ses conquêtes, de liberté, au rythme de son histoire et de sa subjectivité. Et donc, vouloir ainsi dire, regardez-moi, on est plus beau que les autres, ça a quelque chose d'irritant qui peut être contre-performant, notamment dans ces milieux conservateurs qui renaissent de Moscou jusque dans les pays du Sud.
Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Gomard? Quand Emmanuel Macron dit maintenant la prochaine étape, c'est inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est se voir plus beau qu'on est? Ou bien est-ce que c'est quand même pas nécessaire que y ait des pays, et pourquoi pas la France, qui prennent aussi le leadership sur ces questions-là, qui sont des questions importantes?
Pour préparer l'émission, le parallèle qui m'est venu va peut-être vous surprendre, mais c'est celui avec l'élargissement de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous avez cette dialectique avec l'Union européenne. Faut-il davantage élargir, aller plus loin, ou faut-il approfondir? Et je trouve que notre discussion, en fait, sur cette question-là, tourne autour de la même dialectique. C'est-à-dire que le décalage entre le discours que l'on veut pour l'universalisme et les autres et la réalité de la situation chez nous. On a mentionné déjà Robert Badinter dans la discussion qui avait l'habitude de dire « La France, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme ». Et Magali Lafourcade l'a rappelé. Moi, ce qui me frappe, par exemple, sur le débat sur la loi là, en préparation depuis tant de temps sur la fin de vie, en fait, c'est aussi une réponse parce qu'il y a un accès aux soins palliatifs qui n'est pas possible. Hein, pour faire un parallèle avec ce qui a déjà été dit sur l'IVG. On pourrait dire la même chose de l'état des prisons dans les deux sens, c'est-à-dire la manière dont on traite les détenus ou au contraire la manière dont la justice n'est pas rendue pour les victimes. Autrement dit, ce décalage est quand même très problématique, je trouve, entre la charge symbolique que l'on donne à ce type d'événement et la réalité politique qu'on peut observer sur un certain nombre de sujets qu'on pourrait continuer à lister. Et puis, avec Gadette, dans votre introduction, vous avez cité j'avais pas cette citation du président Macron en tête, mais s'il a dit porter le fer au-delà de nos frontières sur des questions de modèle, ben, je vais rejoindre Bertrand Badie pour le coup. C'est-à-dire que moi je suis aussi assez surpris par ça. C'est-à-dire que ça fait écho, si vous voulez, à promouvoir la démocratie à l'extérieur.
Juste un, et une précision. Porter le fer, ça c'était mes mots à moi.
Hein. Oui, parce que j'étais
lui,
un peu
surpris. C'était nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde.
Voilà, c'est quand même très différent. Effectivement, merci de la correction et de ne pas confondre Emmanuel Macron et Hervé Gardette. mais le point important, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que ça fait aussi écho à nous allons promouvoir la démocratie partout dans le monde et d'ailleurs s'il le faut à coup de bombe. Bon. Ou alors nous allons promouvoir des modèles qui peuvent effectivement créer beaucoup de réactions et de crispations. Non pas qu'on ne soit pas convaincu dans notre propre système de leur validité, mais de vouloir les imposer et d'en faire, je pense que ça nous renvoie à notre prétention universaliste. Et qu'elle est en réalité, à mon sens, discutable à partir du moment où cette prétention universaliste n'est pas appuyé précisément sur un modèle qui fonctionnerait parfaitement chez nous.
Avoir une prétention universaliste, ça ne veut pas forcément dire être prétentieux sur l'universalisme, Magali Lafourcade.
Justement, je voudrais réagir à ce dernier propos, puisque donc une des choses que j'ai trouvées les plus bouleversantes dans la cérémonie de vendredi, c'est
donc
que...
Donc était celle du scellement
de la loi constitutionnelle. C'était justement que peut-être, pour la première fois, on pouvait prendre conscience que les droits des femmes, qui sont souvent vus un peu en mode dégradé, comme si c'était une sous-catégorie de droits qui était moins fondamentale que les droits de l'homme, et qui était surtout renvoyée à ça n'intéresse qu'elles, les filles et les femmes, quelque chose de très spécifique. Là, avec l'introduction des droits sexuels et reproductifs dans la Constitution, on a envoyé quand même comme message que les droits des femmes, dès lors qu'on parle des droits fondamentaux, ils sont au même niveau que l'ensemble du corpus des droits humains, c'est-à-dire qu'ils sont universels, les droits des femmes sont universels. Ils sont interdépendants, ils sont exigibles auprès des États. Et c'est là où je rejoins à la fois Brice Couturier, Bertrand Badie et Thomas Gomard, je vais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Universaliste, hein, jusqu'au bout, Magali Lafourcade.
C'est que ce qui était gênant, et dans cette, c'est la terminologie qui a été utilisée. La loi détermine les conditions de cette liberté garantie aux femmes. Finalement, pourquoi on a eu un tel consensus ? C'est qu'on était sur une loi garantie. Ça n'a rien à voir avec un droit. C'est ce que
disait... Oui, il n'y a pas de nouveau droit dans cette loi constitutionnelle.
Tout à fait. C'est un fait. Les féministes, comme la CNCDH, voulaient inscrire dans la Constitution un principe de non-régression. Or, ce n'est pas ce qu'on a obtenu. On a obtenu juste que le mot IVG soit dans la Constitution. Donc, il faut changer la Constitution, ce qui est quand même un peu plus difficile qu'une loi, pour pouvoir l'enlever. Par contre, en mettant dans l'article 34, qui définit le domaine de la loi, les conditions, en disant que la loi détermine les conditions d'exercice d'une liberté garantie, ça veut dire que n'importe quel gouvernement, dès lors qu'il a une majorité, peut faire passer une loi de régression en retirant, donc on sait bien comment ça se passe, on a vu ça en Pologne, on a vu ça en Hongrie, on a vu ça dans plein de pays, ça veut dire retirer les financements aux centres d'IVG, réduire les délais pour pouvoir courir à l'IVG, et puis réduire les conditions. Et donc tout ça donne une impression que finalement, on n'a pas obtenu grand-chose si ce n'est ce symbole fort.
Oui,
qui est
mais
un symbole
justement.
Envoyé aux mouvements anti-droits qui sont, eux, très structurés.
Magali Lafourcade, sur la question du symbole, puisqu'on faisait un petit peu aussi le constat que, alors certes, il y a des choses qui sont du domaine de l'État, peut-être pour améliorer l'accès à l'IVG, mais il y a aussi des choses qui sont de la société plus, plus largement et d'accepter ou pas que l'on avance plus ou moins vite sur certaines questions sociétales. Et là, je fais le rapprochement aussi avec ce qui s'est passé donc à l'Assemblée nationale avec Éric Dupond-Moretti donc, et cette loi de réparation des préjudices subis par les homosexuels et ce pardon de la République. Est-ce que c'est pas aussi important les symboles pour changer les mentalités ? C'est-à-dire, c'est peut-être pas des nouveaux droits, mais c'est aussi des indications qui sont données aussi à l'ensemble de la communauté nationale.
Oui, tout à fait. Cela dit, quand même, on peut se demander comment ça se fait que ce soit que maintenant qu'on a une loi de réhabilitation. L'Espagne l'a fait en 2007 avec une indemnisation qui n'était pas ridicule. Il y a eu le Canada, il y a eu le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche. On arrive un peu tard. Et puis, on peut pas dire non plus qu'on a une politique très audacieuse sur la défense des droits des personnes LGBT. Il y a un plan national d'action. Il n'y a toujours pas de comité de suivi qui a été mis en place. On peut quand même le déplorer. La mobilisation de l'État n'est pas tout à fait au rendez-vous des ambitions affichées.
Bertrand Badie, ensuite Brice Couturier.
Oui, je voudrais juste revenir sur deux points. Le premier, c'est de distinguer symbole et comportement. Je crois que c'est très très important. L'élément positif, on est tous d'accord, c'est effectivement que de plus en plus, et pas seulement par cette dernière étape, le droit à l'IVG, le droit des femmes de disposer de leur corps est quelque chose de conscientisé, pardon de ce terme, mais je crois que c'est celui qui exprime le mieux cette réalité. Et là, de ce point de vue-là, ça fait reculer les modèles alternatifs, quoi, en quelque sorte. Mais ce n'est pas pour autant que l'on touchera au comportement. Peut-être même, d'un certain point de vue, les radicaliseront cette pratique. Je veux dire par là que...
Regardez les sénateurs, il y a un certain nombre de sénateurs par exemple, de droite qui disent on était contre cette constitutionnalisation, on a parlé avec notre entourage, on s'est rendu compte qu'il fallait le faire. Donc ça peut aussi avoir une vertu pédagogique, non ?
Mais ça, c'est incontestable. Ce que je voudrais dire, c'est que du coup, les réserves, les réticences, les hostilités à ce droit basculent dans l'espace privé, c'est-à-dire dans les choix individuels des praticiens de la médecine, des familles, des parents, je ne sais, des voisins, des amis, de ceux qui vont jeter des quolibets ou le discrédit sur la personne qui aura fait ce choix. Donc, c'est extrêmement difficile sur le plan des politiques publiques de pouvoir atteindre les comportements. On peut gérer les symboles, et ça c'est quelque chose de très positif, mais il est extrêmement difficile de gérer les comportements, de même qu'on n'abolira jamais dans la tête de certaines personnes l'idée que la peine de mort c'était bien, etc. Bon, la seule différence c'est que ces gens qui pensent ça ne peuvent pas rétablir la peine de mort. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos de l'universalisme. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'est l'essence même de l'universalisme, et notamment sur ce problème extrêmement important du droit des femmes. L'universalisme, c'est pas de vendre au monde un modèle unique. L'universalisme, c'est ce trait universel, peut-être est-ce le seul trait réellement universel dans notre monde actuel, qui est la lutte pour l'émancipation, le droit de résistance. C'est la seule vertu véritablement universelle. Et quand les femmes en Iran, dans une situation de danger extrême, descendent dans la rue, arrachent leur voile, se coupent les cheveux, viennent bousculer les mollahs et jeter à terre leur turban, ça, c'est un comportement universaliste. C'est-à-dire, partout dans le monde, les femmes ont ce même réflexe de revendication d'un droit. Partout dans le monde, les humains ont cette revendication de l'émancipation. Mais c'est tout à fait autre chose que de dire, j'ai le mode d'emploi tout fait, le prêt-à-porter de ce droit, et je vais vous l'offrir. Le chemin qui mènera les femmes à conquérir leurs droits ne peut pas être le même en France, en Iran, en Chine, en Afghanistan ou au Soudan. Et ça, c'est quelque chose que notre Sainte République n'arrive pas à comprendre. Et c'est quelque chose qui gênait dans cette espèce d'étalage au auxquels on a assisté.
Où est-ce que tu riais ?
Là, je suis en léger désaccord avec Bertrand Badie.
Enfin !
Moi, j'estime que les droits de l'homme sont universels, qu'ils ont une portée universelle et que ce n'est pas parce que, par hasard, ils sont nés probablement en Europe au XVIIIe siècle et pendant les Lumières, qu'il faut les refuser dans certains pays sous prétexte de traditions locales.
Ah, j'ai jamais dit ça.
Non, mais quand vous dites Bertrand Badie qu'il ne faut pas les imposer sous la forme de notre modèle, je vois arriver le moment où certains tiers-mondistes nous ont dit dans les années 80 que les mutilations génitales des femmes faisaient partie des traditions locales, de la culture locale, et que chercher à les interdire faisait partie d'une forme de néocolonialisme occidental. Moi, je pense que les droits de l'homme ont une portée universelle, qu'ils ne sont pas le propre de l'Occident, qu'ils sont l'aspiration de tous les peuples du monde, qu'ils le sachent ou non, et qu'il est bon de les promouvoir par tous les moyens, y compris, comme on le faisait autrefois dans notre diplomatie, en conditionnant certaines aides à des avancées dans le domaine des droits de l'homme, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas une spécificité occidentale, mais qui sont une aspiration universelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Puisque vous êtes interpellé, répondez, Bertrand Badie.
Vous ne vous adressez pas à Bertrand Badie en disant ça, vous adressez aux tiers-mondistes des années 60 et 70. Moi, je n'ai pas du tout dit ça. Simplement, il faut expliciter ce que l'on entend par droit universel. D'abord, universel est un terme qui ne fait sens que si tout le monde le construit ensemble. Et c'est en cela que tous ces mouvements qui naissent partout dans le monde, et il n'y a pas de pays où ils n'existent pas, c'est en tenant compte de la dynamique de chacun d'entre eux, et non pas en offrant une sorte de mode d'emploi a priori, que l'on pourra faire avancer la question. Bien sûr.
Nous avons parmi nous la secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je vous laisse conclure sur ce sujet,
Magalia Fourcade. Sur l'universel, de toute façon, quand on rencontre des défenseurs, donc ceux qui utilisent les droits qui ont été consacrés pour pouvoir les défendre et pour pouvoir s'en servir, ça devient tellement évident quand on rencontre ces personnes-là. S'il n'y a pas un être sur cette terre qui ne revendique la reconnaissance de sa dignité, c'est ça l'universel. Et alors si les déclarations des droits de l'homme sont nées en Occident à une période donnée, il n'en demeure pas moins que les droits en eux-mêmes n'ont pas été construits et inventés à ce moment-là. Ils recouvrent toutes les tragédies qui, dans l'histoire de l'humanité, et sous toutes les latitudes du monde, ont conduit les êtres humains à se dire qu'il fallait poser des interdits, des lignes claires et éventuellement même des directions vers lesquelles s'engager.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Nous devons tous être conscients que cette guerre nous touche. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer ? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer.
Il persiste et il signe. Il n'y a aucune limite au soutien que la France peut apporter à l'Ukraine, ni de ligne rouge. Emmanuel Macron est resté droit dans ses bruits de bottes jeudi. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté les responsables des formations politiques que le président français avait conviés à l'Élysée. Eu égard aux inquiétudes exprimées par l'opposition au sortir de ces entretiens, le débat parlementaire cette semaine autour de l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev promet d'être agité. Mais l'agitation, ça ne fait pas peur à Emmanuel Macron. On pourrait même dire que c'est sa marque de fabrique en matière de politique étrangère. Le président français n'aime rien tant que secouer le cocotier de la diplomatie, avec plus ou moins de succès. Au rayon coup d'épée dans l'eau, sa proposition de monter une coalition anti-Hamas sur le modèle de celle contre Daesh. Proposition aussitôt retoquée par les alliés de la France. Pas content non plus d'ailleurs les alliés lorsqu'Emmanuel Macron avait suggéré de ne pas faire preuve de suivisme envers les États-Unis à propos de Taïwan. Mais la disruption macronienne a aussi quelques succès à son actif. Discours flamboyant en 2017 sur la souveraineté stratégique européenne. Coup de semonce à propos de l'OTAN. Comme le rappelle la journaliste Marion Van Rettergem dans L'Express, son constat à l'époque d'une organisation en état de mort cérébrale avait d'abord vexé les États membres avant de jouer son rôle dans le réveil inattendu de l'Alliance. Et donc désormais, l'Ukraine. Rien ne doit être exclu, y compris l'envoi de troupes au sol. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche, a encore dit Emmanuel Macron, de quoi agacer nos partenaires, au premier rang desquels l'Allemagne. François Hollande, qui ne perd jamais une occasion de tacler son successeur, a eu cette phrase mercredi soir, après avoir lui aussi été reçu à l'Élysée. Ma position, a-t-il dit, sur les questions militaires, c'est moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. Tout le contraire, a priori, de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Thomas Gomard, vous êtes plutôt Emmanuel Macron ou vous êtes plutôt François Hollande par rapport à ce que je viens de dénoncer ?
Ni l'un ni l'autre, Hervé Gardette, au risque de vous décevoir. Non, écoutez, l'analyse que je fais de cette séquence est en ligne avec la première partie de notre émission en réalité. C'est-à-dire que il y a à mon avis deux aspects. Il y a un aspect qui est la préparation des élections européennes et la volonté probablement du président Macron de créer du clivage dans la perspective de ces élections européennes, avec un effet peut-être assez paradoxal, c'est qu'il y avait un niveau de soutien élevé de l'opinion à la cause ukrainienne. Il n'y a pas un soutien de l'opinion à la perspective d'un engagement militaire. Bon.
Il y a un sondage, je crois qu'on est un peu plus de deux tiers des personnes interrogées, en tout cas, qui sont hostiles à cette...
Mais on voit bien la logique qui est une logique obligeant ses adversaires politiques à sortir du bois et d'une ambiguïté dans le rapport à la Russie. Je vais y revenir. Et puis, il y a un deuxième aspect sur lequel je pense que le président de la République a raison, c'est de souligner l'extrême gravité de la situation, en fait. Et de le faire en essayant de faire comprendre, à mon avis, à l'opinion et aux partenaires européens qui ne seraient pas encore convaincus, mais à mon avis, l'ensemble l'est désormais, que ce qui se joue en Ukraine, c'est la sécurité européenne dans une perspective d'une génération, en fait. Bon. Alors, ça renvoie, à mon avis, à peut-être deux observations plus fondamentales. La première, c'est un retour à 2017. Cette idée d'un consensus sur la politique étrangère française, à mon avis, disparaît dès l'élection présidentielle de 2017, précisément sur la Russie, puisque sur les quatre principaux candidats à l'époque, on en a trois qui ont propos assez favorables à la Russie. Mmh. François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. En 2017, après 2014, c'est-à-dire après l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, c'est-à-dire que ça traduit à mon sens quand même l'erreur fondamentale d'analyse commise par la classe politique française sur la trajectoire prise par la Russie de Vladimir Poutine après Bolotnaya, après 2012, et le fait que d'une certaine manière, dans son premier mandat, Emmanuel Macron s'est rallié à cette position avec Brégançon. L'idée qu'on allait ramener Vladimir Poutine à la raison et qu'il allait modifier son comportement. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est important de rappeler cette évolution. La deuxième observation plus générale, c'est que ça renvoie cette question du consensus en politique étrangère à ce débat que je trouve en fait très mal posé entre, qui était le débat de 2017, entre les néoconservateurs appartenant à une vision assez occidentale et puis une vision gaullo-mitterrandienne. Pour ma part, je n'ai jamais trouvé ce terme pertinent. Je l'ai toujours trouvé très flatteur pour François Mitterrand par rapport à l'héritage de Gérald de Gaulle, soit dit en passant, mais peu importe. Mais il s'est inscrit, Emmanuel Macron s'est inscrit dans ce sillage-là. Et à mon avis, c'est un sillage qui nous empêche de penser. Parce que ça fait du gaullisme une sorte de fétiche et on a une sorte de lecture partielle et partiale du gaullisme en fonction de ce que l'on veut obtenir comme résultat politique. Et puis ça fait comme si la politique étrangère française commençait en 1958 en fait, alors qu'elle a peut-être un peu plus d'antériorité.
Donc ça veut dire, Thomas Gomard, que vous trouvez ça plutôt sain qu'aujourd'hui on revoit de fortes divergences sur la politique étrangère de la France, parce que c'est vrai que depuis 2022 on avait quand même l'impression que si ces divergences, elles existaient encore, mais elles s'étaient atténuées, ou en tout cas on les entendait moins de la part de ceux qui avaient pendant un temps plutôt soutenu Vladimir Poutine.
Je trouve ça très sain qu'il y ait du débat sur la politique étrangère, mais je pense que ce débat va à mon avis se figer sur, à mon avis, les trois vrais clivages que je vois. C'est pas donc néoconservateur, gaullo-mitterrandiste, etc. Non, il y a trois débats. Il y a le premier débat qui est effectivement posé par le président de la République dans son discours de la Sorbonne de 2017. C'est est-ce qu'il y a une Europe puissance au sens est-ce qu'il y a une Europe qui peut être acteur stratégique? Et c'est pas si simple du tout comme question. Deuxième grand clivage, c'est le clivage tout simplement entre paix et guerre. C'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'une politique étrangère est là pour construire un état de paix ou est-ce qu'elle est là pour préparer une possible guerre? Et c'est ça le moment dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que j'insistais sur la gravité, c'est-à-dire que ça nous renvoie à quelque chose que nous avions oublié collectivement, c'est que les questions militaires, c'est pas que pour les autres. Et ça, c'est très déstabilisant pour la manière dont on a lu le monde depuis 1991. Et puis, je crois qu'il y a un troisième clivage qui fait le lien avec la première partie de notre discussion. C'est est-ce qu'il y a une singularité française, en fait, dans le monde ? Alors, la classe politique va répondre spontanément, évidemment. Et d'ailleurs, notre discussion de la première partie allait dans ce sens. Mais c'est pas si évident que ça quand vous êtes un pays qui, peut-être que les milieux économiques répondront très différemment à ça. Quand vous êtes un pays qui aujourd'hui est dans l'état qu'il est sur le plan économique, qui a 3000 milliards de dettes publiques, qui a 100 milliards de déficit commercial et qui effectivement fait un peu la leçon à tout le monde.
Bertrand Badie.
Oui, moi je pense qu'il faut, dans cette affaire qui est intéressante, qui est importante, révélatrice, distinguer trois niveaux, la politique internationale, la politique étrangère et la diplomatie. Et je crois que ces trois niveaux ont été mélangés, peut-être par le président, mais certainement par les commentateurs et par tous ceux qui, en France et ailleurs, ont réagi. Je m'explique. La politique internationale, c'est un discours sur l'international. C'est donner sa vision de l'international. C'est donner sa mesure des risques, des dangers, des perspectives et tout ce qui s'ensuit. Nécessairement, et c'est ce qu'a fait le président de la République, notamment à l'issue de la conférence de Paris, où il a prononcé cette fameuse phrase, et ensuite, à répétition, comme vous dites, il a persisté et signé. Quand on fait de la politique internationale, nécessairement, on crée plein d'interférences. C'est-à-dire que on va mobiliser des considérations de politique intérieure, on va mobiliser également un système de valeurs qui n'est pas forcément consensuel. Et de toute façon, et ça, on n'a pas suffisamment mis la chose au crédit du président de la République, quand on fait de la politique internationale, on se contente, et c'est ce qu'il a fait, de dire... Il n'est pas exclu d'eux. Il n'y avait pas une annonce de décision ni même de processus amorcé. Mais ça crée cette confusion. Et on est dans cette confusion. Parce que derrière la politique internationale, la politique étrangère, c'est autre chose. La politique étrangère, c'est une politique publique. C'est-à-dire l'affirmation d'une cohérence par rapport à un certain nombre d'enjeux. Il faut définir ces enjeux, il faut définir cette cohérence et il faut surtout vérifier si nous avons la capacité d'eux. Est-ce que la France a la capacité de faire tout ce qu'elle annonce ?
Et là, il n'y a pas de cohérence entre...
C'est un sujet rarement abordé par les hommes d'État en France depuis peut-être le général de Gaulle et François Mitterrand. Il y a cette façon de dire « Oh, moi j'aimerais, je pense que, etc. » Mais est-ce que nous en avons les moyens et quels moyens doit-on mobiliser ? Ça, ce débat, il est inaudible. On ne l'entend pas, ni dans la bouche du président, ni dans ceux qui le critiquent et le contestent. Et puis, il y a un troisième niveau, et c'est peut-être ça qui m'a le plus choqué, qui est celui de la diplomatie. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? C'est la prise en compte de l'altérité de l'autre pour savoir si les intentions que l'on a soi-même sont réalisables. Et ce qui est quand même sidérant, c'est l'idée d'envoyer des troupes au sol, alors que ce soit des troupes combattantes ou pas, etc., c'est pas une décision solitaire. Ça ne peut être qu'une décision délibérée avec les alliés ou les partenaires. Manifestement, cette discussion n'a pas eu lieu à voir l'ampleur de la réponse.
Ce que disait Emmanuel Macron, c'est on en discute, mais il n'y a pas de consensus.
Bah voilà, exactement.
Bon. C'est important quand même de dire
oui,
qu'on en discute.
Mais l'effet pervers de tout ça, et c'est sur quoi je voulais atterrir, l'effet pervers de tout ça, c'est que suite à cette déclaration, on a assisté à une formidable envolée de moineaux, tout le monde criant dans tous les sens, ce qui a conduit Vladimir Poutine à un double frottement de mains. D'abord, regardez comme l'Europe est divisée, ça, il n'y avait rien de tel pour le contenter, et c'est là que l'on est passé du politique au stratégique, c'est-à-dire, ben voilà, stratégiquement, il n'y a pas d'union de l'Europe, donc tout ce qu'il dit, c'est des propos de salon, en quelque sorte. Et puis, un deuxième effet pervers, je ne sais pas si le président en avait pris la mesure, c'est que Vladimir Poutine dit « Regardez, ça fait 2 ans que je vous le dis, le véritable ennemi, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Occident. Regardez les Occidentaux qui commencent à vouloir se mettre en ordre de bataille. Je vous l'avais bien dit. » Donc, faire très attention. Quand on fait de la politique internationale, en ignorant la politique étrangère et la diplomatie, on risque de créer des effets pervers qui desservent votre diplomatie et votre politique étrangère.
Sauf qu'en mettant cette question sur la table, et on voit bien qu'il l'a fait à dessein, hein, puisqu'il l'assume totalement, Emmanuel Macron, il permet aussi que l'on discute de cette hypothèse d'un conflit ouvert avec, avec la Russie. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui paraissait totalement inimaginable autrefois, enfin, jusqu'à il y a peu, et aujourd'hui on en discute.
Oui, mais quand vous ouvrez une discussion, il faut organiser la discussion, sinon elle vous retombe sur le pied.
Magali. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que fin février, quand c'est en répondant à une question qui a l'air de faire peut-être même quelque chose de très impréparé, peut-être même une gaffe, puisqu'en fait, il y aurait eu, dans la réunion précédente, un consensus plutôt pour ne pas envoyer de troupes. Et quand il va à Prague, là, il assume son propos pleinement. Et la question, c'est est-ce qu'on est dans l'incantation ou est-ce qu'on est dans une réalité stratégique ? Et je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on est très très loin d'une économie de guerre avec un déficit structurel extrêmement important. Il faut voir aussi ce que ça représente en termes de cadence de travail, en termes de planification et de prise en main de l'appareil productif par l'État. Donc on est quand même très loin. Donc ce débat, en fait, on voit qu'il commence à se construire. Et on a vu que le propos d'Emmanuel Macron à Prague n'a pas du tout eu le même accueil que fin février. Les pays baltes, la République tchèque ne voient pas les choses de la même manière et on réalise en fait à quel point ce sujet autour de cette Russie poutinienne qui est extrêmement agressive et qui vraiment n'arrête pas de faire la guerre depuis le début. On voit qu'en fait, il faut nous expliquer nous, en France, en quoi cette guerre est une guerre qui nous concerne. Et c'est ça l'enjeu, puisque dans les pays qui ont une frontière, les choses sont vues tout à fait différemment. Dans les pays qui ont été supprimés à un moment de leur histoire, les choses sont vues différemment. Mais en France, on a du mal à comprendre l'enjeu stratégique.
Et de ce point de vue, peut-être que alors, justement, les interventions d'Emmanuel Macron
sont tout à fait intéressantes. Moi, je pense que c'est un débat salutaire. Il faut comprendre pourquoi nos intérêts. On sait très bien que nos intérêts en Afrique ont été extrêmement dégradé par l'intervention du groupe Wagner. On sait qu'il y a un enjeu sur le blé avec l'Ukraine si la Russie emporte la bataille sur l'Ukraine. On sait aussi qu'il y a un enjeu aussi sur le droit international, puisque c'est une remise en cause des frontières. On voit tout ça et on a besoin de savoir aussi si les menaces qui ont été faites vis-à-vis de la personne du président Macron lors d'un voyage qu'il a dû annuler en Ukraine, ou toutes ces cyberattaques, cette intrusion dans nos élections, il faut qu'on arrive à comprendre où en est le degré de menace pour voir quel degré d'appropriation peut avoir l'opinion. Tout à l'heure, vous rappeliez que c'était Thomas Gomard qui le rappelait, que l'opinion publique est défavorable aux propos d'Emmanuel Macron à 68%. Oui, mais l'opinion publique, elle a besoin d'explications et de pédagogie. Alors bien sûr, sur une guerre, on peut pas tout expliquer. L'ancien président Hollande a raison de dire qu'on peut pas donner sur la table tous les scénarios. Toutefois, il y a quand même deux, trois choses à clarifier. Le mot de troupe, tout de suite dans l'imaginaire, ça renvoie à des choses qui est nos garçons au front, les familles à l'arrière et la conscription qui est de retour. Je crois que c'est pas du tout ça le projet. Le projet, manifestement, c'est d'envoyer des responsables militaires. Il y en aura déjà sur place, Olaf Scholz l'a dit. Donc c'est d'envoyer des responsables qui ont une compétence particulière et on n'est pas du tout dans le retour à la conscription. Et ça, je crois aussi qu'il faut l'expliquer. On a besoin de clarification et ce débat est intéressant.
Je reprends cette formule de François Hollande. Moins on en dit, mieux on agit. Est-ce que vous diriez la même chose ou Brice Couturier ? Au contraire, plus on en dit, mieux on agit.
Quand on est un président qui était incapable de se représenter tellement on était impopulaire, je pense qu'on devrait s'abstenir de ce genre de commentaires par rapport à celui qui lui a été capable de se faire non seulement élire, mais réélire. Mais enfin, moi je voudrais vous citer Monsieur Sikorski, qui est le nouveau ministre polonais des Affaires étrangères dans le gouvernement Tusk, hein, pas le gouvernement PiS, hein, le gouvernement du centre-droit, pas le gouvernement populiste. Je cite « La présence de forces de l'OTAN en Ukraine n'est pas impensable ». J'apprécie l'initiative du président Macron parce qu'il s'agit de faire peur à Poutine et non pas que nous ayons peur de Poutine. Je souligne que les trois pays baltes, les ministres des Affaires étrangères des trois pays baltes ont fait des déclarations exactement dans le même sens, que la Tchéquie est également dans le bateau. Donc les commentateurs que j'ai entendus dire que Macron était irresponsable et qu'il avait dérapé feraient mieux de regarder un peu au-delà de Berlin pour essayer de comprendre ce qui se passe en Europe. L'Europe, ça se résume pas à l'Allemagne. C'est vrai qu'on a un problème avec les Allemands. C'est vrai qu'on a sur le l'Ukraine des points de vue différents. Ça tient simplement à des choses qui sont très anciennes. Le fait que la France est une puissance nucléaire et que comme une puissance nucléaire, en tant que puissance nucléaire, elle a une stratégie de l'ambiguïté. Elle a toujours eu, à savoir que nous n'avons jamais défini, depuis que nous avons la bombe atomique, quels sont les fameux intérêts vitaux que nous défendrions, y compris par la guerre nucléaire. Les Allemands n'ont pas d'armes nucléaires, ils ne sont pas dans la même situation. Par ailleurs, nous, depuis Mitterrand, ça remonte aux années 80, nous essayons d'assurer la sécurité en Europe par nos propres moyens, parce que nous craignons qu'un jour les Américains s'en aillent. Et là, nous avons Donald Trump qui risque fort de devenir président à la fin de cette année et qu'effectivement cette garantie américaine de sécurité sur l'Europe disparaisse. Donc l'idée d'assurer la sécurité de l'Europe par ses propres moyens que Macron défend après Mitterrand, après Chirac, après tous les autres, est dans une parfaite continuité. Je voyais cette citation de Joseph Joffe, qui était l'ancien rédacteur en chef de Die Zeit, qui dit la chose suivante. « En tant que garant de dernier recours, les États-Unis sont le seul membre de l'OTAN à pouvoir souscrire un contrat d'assurance existentielle contre le mastodonte russe. » Voilà, nous ne pensons pas ça. Nous, les Français, pensons que l'Europe aurait les moyens financiers, en tous les cas humains et matériels, de résister à la Russie, qu'il faut aussi savoir qu'en ce moment, la progression des troupes russes dans le sud est extrêmement inquiétante parce qu'ils approchent d'Odessa et de Kherson. Si jamais la Russie arrivait à percer dans le sud de l'Ukraine, couper l'Ukraine de la mer Noire et faire la jonction avec la Moldavie, où les troupes russes sont déjà présentes en Transnistrie, la guerre en Europe éclaterait d'office. Donc nous ne pouvons pas tolérer une telle situation. Je remarque par ailleurs, j'entends des politiques et des responsables nous dire « nous ne voulons pas mourir pour le Donbass ». C'est terrible à quel point ça me rappelle les années 30 où on voyait Marcel Déat, le socialiste qui allait devenir fasciste et animer un mouvement de collaboration avec l'ennemi, nous dire en 1939, mourir pour Danzig. Hein, on nous faisait la même chose. La répétition du scénario des années 30 est tellement stupéfiante quand on voit les progressions systématiques de la Russie qui correspondent exactement avec toujours l'idée qu'on a été humilié par la dernière guerre froide ou la guerre de 14-18 et que donc il faut comprendre la volonté de revanche de ce peuple humilié. On nous a fait exactement la même chose avec Adolf Hitler que ce qu'on nous fait aujourd'hui avec Poutine. En tous les cas, ceux qui nous disent on ne veut pas mourir pour le Donbass, on ne leur demande pas d'aller mourir pour le Donbass, on leur demande simplement de faire preuve d'intelligence, de courage et de lucidité.
Et on sent bien d'ailleurs que cette référence historique, elle était sans doute aussi à l'esprit d'Emmanuel Macron quand il évoque le fait qu'il ne faudra pas être lâche le moment venu. C'est évidemment la lâcheté des accords de Munich.
Attendez, juste une chose. Oui. On nous dit, certains dirigeants politiques comme M. Bardella nous disent le président refuse de mettre des lignes rouges. Est-ce que la Russie, elle, met des lignes rouges quand elle menace, et c'était encore le cas hier soir, la télévision russe menace les capitales occidentales d'une frappe atomique. On laisse le contrôle de l'escalade à Poutine. C'est très dangereux. Il faut disputer à Poutine l'escalade et il ne faut pas lui laisser l'initiative. Sinon, nous allons effectivement vers la guerre. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et on évite la guerre. Comme l'a dit le chef de la CDU hier, M. Merz, il a dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et il critiquait le président Scholz et il faisait l'éloge de Macron. Donc, encore une fois, Macron est loin d'être isolé en Europe. La CDU est de son côté.
Et justement, est-ce qu'Emmanuel Macron a vocation à porter une forme de leadership face à Vladimir Poutine? On parle beaucoup dans cette émission, Thomas Gomard, de la perspective des élections américaines avec la possibilité pour Donald Trump de revenir au pouvoir. Est-ce que Emmanuel Macron peut assumer ce leadership-là? Et si ça n'est pas lui, qui pourrait le faire?
Ouais, je pense qu'il y a une part de l'explication qui tient effectivement à l'hypothèse de plus en plus crédible d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est aussi comme ça qu'il faut lire les prises de position récentes d'Emmanuel Macron. Parce que, et c'est là qu'il va y avoir quelque chose, à mon avis, très, très délicat à distinguer entre politique internationale, politique étrangère et diplomatie, pour reprendre la classification de Bertrand Badie tout à l'heure. En fait, c'est la victoire intellectuelle, pour utiliser un terme que le président affectionne, de la France depuis 58, de dire on peut se retrouver dans une situation, ce qui est évident, ça c'est parfaitement assimilé par nos élites politiques, que les États-Unis n'engageront pas leur sécurité directe pour l'Europe. Hein. Et c'est pour ça que la France est dotée d'une dissuasion nucléaire depuis 1958. Si cette victoire intellectuelle doit se traduire par, au fond, une recherche de leadership, je pense que la manière, et notamment la manière de parler, quoi qu'on pense de Olaf Scholz, de parler aujourd'hui à l'Allemagne, est inadaptée, en fait. Donc il y a, à mon avis, un travail tout à fait important à faire. C'est la question, en fait, qu'on pourrait poser.
Qu'est-ce que vous trouvez d'inadapté dans la façon dont Olaf Scholz parle?
C'est-à-dire de tordre le bras comme ça, aussi, je dirais, ouvertement à l'allié allemand, me semble peut-être contre-productif d'une certaine manière. Et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quelle sera l'attitude des Européens vis-à-vis de l'OTAN si les États-Unis de Donald Trump s'en éloignaient de manière très, très, très forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une autre manière de le dire, c'est qu'il faut se préparer intellectuellement à une possibilité de forme d'entente russo-américaine sur l'Europe ou au détriment de l'Europe en cas de réélection de Donald Trump. Alors, il y a des cordes de rappel très fortes dans le système américain, et je pense qu'il faut bien mesurer, en fait, le seuil sur lequel nous sommes. La deuxième chose, par rapport à l'usage du mot « troupe », de vouloir un peu rassurer l'opinion, je dirais oui et non, parce que ce qu'on est en train de constater aussi dans nos propres systèmes, et là il y a aussi l'enseignement tiré de la mobilisation israélienne, c'est qu'aujourd'hui un pays comme le nôtre, que ce soit dans des situations très, très difficiles en termes militaires, ou même très difficiles pour des questions environnementales, ne sait plus mobiliser. Ne serait plus mobilisé. Et ce qui renvoie aussi à un autre aspect de la discussion sur la manière dont nous faisons société et dont nous ferions société dans un système extrêmement difficile.
Donc il ne faut pas forcément chercher à nous rassurer, mais plutôt à nous inquiéter.
Non, il faut chercher à se préparer. Il faut chercher à se préparer à des coups durs qui peuvent être de nature militaire, mais autres. Et je pense que c'est quelque chose, on n'a pas du tout de culture de l'exercice en France, et on l'a un peu plus en Allemagne, et je pense que c'est un vrai problème, et c'est probablement un sujet sur lequel des forces politiques pourraient se retrouver. Dernier point sur la méthode, et je reboucle, excusez-moi de la facilité de langage avec ce que j'ai dit précédemment. Moi, je pense qu'on gagnerait en France, peut-être, en matière internationale, à parler un peu moins et à travailler un peu plus.
Eh ben finalement, vous voyez que vous rejoignez un tout petit peu François Hollande, pas entièrement. Bertrand Badie.
Il n'a pas beaucoup travaillé.
Ah, ça, je vous laisse.
On pourrait, laissons François Hollande de côté, on pourrait aussi se référer à ce très beau papier qu'avait signé le ministre allemand de l'époque des Affaires étrangères, Westerwelle, qui disait « une bonne diplomatie, c'est une diplomatie modeste », c'est-à-dire une diplomatie qui n'est pas, comme disait un président africain à propos de la France, une diplomatie du mégaphone. Le mégaphone est un très mauvais instrument dans les chancelleries diplomatiques, n'est-ce pas? Et pourquoi là en particulier? On est d'accord autour de cette table pour dire que la fonction essentielle de ces propos répétés du président de la République, c'était d'envoyer des messages. Mais ces messages, j'en vois au moins quatre. Et le problème, c'est qu'ils sont contradictoires. Il y a un message en direction de Poutine et de la Russie qui est très fondé, qui consiste à dire « vous ne m'impressionnez pas avec vos lignes rouges ». D'ailleurs, ces lignes rouges, c'est vous qui les définissez arbitrairement et donc nous nous émancipons de cette menace.
Ça, c'est plutôt nécessaire, non?
Comment?
Ça, c'est plutôt nécessaire,
oui,
ce genre de message.
Oui, c'est très bien. Très bien. Moi, je signe ça, si vous voulez. Deuxième message, c'est en direction des États-Unis. Vous, en ce moment, vous êtes en train de piétiner sur le dossier ukrainien. Nous, on est dans une posture volontariste. Très bien aussi. Troisième message, très positif également, en direction de l'Ukraine, en disant vous n'êtes pas seul. En ce moment, les Ukrainiens ont un moral un peu difficile, disons, on les rassure. Bon, puis il y avait un troisième message, et qui était peut-être le plus important, en tout cas le plus audible, qui est de dire, mes amis européens, il nous faut une défense commune. Et sous-entendu, l'initiateur et le leader, c'est moi. Et là, ça brouille tout. Pourquoi ça brouille tout? D'abord parce que ça enclenche la colère, et pas seulement d'Olaf Scholz. Hein. On l'a entendu aussi au Danemark, on l'a entendu en Espagne, on l'a entendu au Portugal, etc., etc. Donc, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire, c'est facile de dire, mais écoutez, une défense européenne est impossible, puisque justement, ce qu'il y a de plus visible en ce moment, c'est l'absence totale de consensus. S'il n'y a pas de consensus sur une politique étrangère, comment voulez-vous qu'il y ait une défense commune? C'est effectivement absurde. Donc là, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que les trois premiers messages en direction des États-Unis, en direction de la Russie, en direction de l'Ukraine, sont annulés par ce quatrième message qui, portant l'ambiguïté et la division, montre que finalement, la dissuasion envoyée à Moscou
à Washington sous une toute autre forme et les encouragements envoyés à Kiev ne fonctionnent pas.
Mais
et
ça veut dire, Bertrand Badie, qu'il aurait fallu qu'Emmanuel Macron ne parle qu'au nom de la France en tant que puissance nucléaire, mais pas au nom des Européens ?
Moi, je pense que le mieux, c'est de ne pas parler, effectivement. C'est-à-dire, pas de mégaphone. Ce sont des sujets trop graves. Vous savez, la diplomatie, c'est un art, et c'est un art qui n'a absolument rien à voir avec les effets de tribune. C'est un art très subtil, surtout quand le sujet est grave, et de ce point de vue, lorsqu'on envoie des messages qui se contredisent dans la manière dont ils sont reçus, eh ben, c'est les quatre qui écalent en vol. Eh ben, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire.
La diplomatie, c'est un art. Alors, quel type d'artiste serait Emmanuel Macron en la matière, Magali Lafourcade?
Je crois que c'est un artiste qui essaye de retrouver la grammaire de la dissuasion en parlant de troupes, alors que ce ne serait pas tout à fait le terme adapté. Mais il risque là la désunion de l'Europe. On voit bien qu'en fait, le problème pour Olaf Scholz, c'est bien sûr que lui, il doit prôner la désescalade, parce qu'il est dans une culture stratégique qui est extrêmement différente, parce que c'est un régime parlementaire avec une coalition, et aussi parce que sa base électorale est très pacifique. Donc on voit qu'il faut arriver à ménager tout ça pour pouvoir expliquer pourquoi il y a une urgence actuellement. Et l'urgence, c'est comme l'a dit Thomas Gomard, le problème américain, c'est le Congrès qui ne vote pas les aides, c'est la victoire potentielle de Donald Trump, et puis c'est le fait que l'armée ukrainienne est en très mauvaise posture actuellement. Mais il y a quand même une chose qui est déroutante, c'est quand on évoque Munich en long, en large et en travers, c'est très gênant parce qu'en fait depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses et donc convoquer l'histoire comme ça, c'est un peu dangereux parce qu'on a quand même eu le fait nucléaire depuis tout ce temps et qu'on a vendu aux Français le fait que la dissuasion nucléaire, c'était une protection extrêmement importante et ça a marché du temps de la guerre froide. On a eu des tensions très très fortes qui ont été résolues comme ça. Donc là aussi, il y a un message qu'il faut un petit peu réexpliquer aux Français.
Thomas Gomard.
Non, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur les modalités d'intervention de la parole présidentielle qui est hyper concentrée. Alors si la référence c'est le général de Gaulle, il faut peut-être se rappeler que le général de Gaulle avait des ministres qui parlaient, qui faisaient leur travail. Et c'est à mon avis une partie du problème, c'est-à-dire que la confusion des messages qu'on évoquait précédemment s'explique aussi par le fait que, en la matière, il y a que la parole présidentielle. Ça peut se comprendre sur un certain nombre de sujets, en particulier le nucléaire. Enfin, il y a de la place pour des ministres.
Et c'est pas le cas aujourd'hui.
À l'évidence, non.
Stéphane Séjourné, on commence quand même un petit peu à l'identifier.
On peut regarder
le ministre des Affaires étrangères.
On peut regarder depuis 2017. Il faut, à mon avis aussi, qu'il y ait un espace beaucoup plus important pris par les ministres en charge de ces questions-là.
Brice Couturier.
Puisque vous parlez du général de Gaulle et qu'on l'invoque à tour de bras du côté de l'extrême droite en particulier pour essayer de nous expliquer pourquoi il faut absolument qu'on soit pacifiste face à l'agression, je voudrais juste citer le discours que faisait le général de Gaulle lors de la crise de Berlin en 1961. Juste, c'est très court, vous allez voir. À un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement faciliter, hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droites et fermes. Ben, je pense que c'est un message tout à fait adapté à la situation que nous vivons aujourd'hui et qu'on arrête de nous faire croire que de Gaulle était neutraliste et pacifiste. Il l'était nullement. Et il était un très bon allié de l'Alliance Atlantique tout en gardant l'autonomie stratégique de la France. C'est un très bon message pour aujourd'hui.
Eh bien, c'est sur ce message que nous allons nous quitter. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Brice Couturier, Thomas Gomard, Bertrand Badie et Magali Lafourcade. Émission que vous pouvez retrouver, comme à chaque fois, sur notre site franceculture.fr. Cette émission, elle a été préparée, comme chaque semaine, par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jeanrenaud. À la prise de son, il y avait Anthony Thomasson.
France Culture. L'esprit d'ouverture. Douarnenez, 1924. Les hommes sont en mer et les femmes à terre, les mains dans le poisson, travaillant dans les nombreuses conserveries de la ville. Les journées sont interminables et les salaires dérisoires pour celles surnommées les peines sardines.
Mettre la sardine en boîte, c'est tout un art. Et si c'était pas bien fait, c'était rejeté par la contre-maîtresse.
Une histoire particulière, les peines sardines. Ouvrières en grève, un documentaire de Margot Wartel, réalisé par Guillaume Baldi, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente « Inch'Allah, un fils », un film d'Amjad Al-Rachid, Jordanie de nos jours. Après la mort soudaine de son mari, Nawal doit se battre pour sa part d'héritage, pour sauver sa fille et sa maison, dans une société où avoir un fils changerait la donne. Un thriller familial, magistral et saisissant. Inch'Allah, un fils, un film d'Amjad Al-Rachid, actuellement au cinéma, un film France Culture.
Et sur France Culture, il est midi, l'heure de retrouver les bonnes choses de Caroline Brouet. Direction aujourd'hui de la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Cité où se tient une exposition. Et si on allait au resto? Bonne idée.
Toi, tu vas me tailler les carottes en julienne, brosser les champignons et tourner les artichauts. Et n'oublie pas les salades cette fois.
Ça marche. Faut pas que je traîne. Il est exigeant le sous-chef. Mais il a raison. À mon niveau, je participe aussi à la réussite du resto. On est une équipe, quoi.
Vous êtes bons, les gars? Tout va bien?
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Il y a 2 ans, en mai 2022, ouvrait à Dijon la Cité internationale de la gastronomie et du vin, avec pour ambition de célébrer l'art de vivre à la française, reconnu par l'UNESCO en 2010. 1700 m² d'exposition, un village gastronomique avec son bar à douceur, son manège à moutarde, sa planche à fromage et sa librairie gourmande, des expositions permanentes et temporaire, avec d'ailleurs jusqu'en janvier 2025 une immersion théâtrale dans l'univers du restaurant.